Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour ce rendez-vous annuel qui, du moins pour moi, depuis quelques années, tient chaque fois davantage du miracle. J'ai l'impression que cette saison hivernale qui nous fait tant apprécier le confort et la chaleur de cet amphithéâtre navarre est toutefois marquée depuis plusieurs années par des déflagrations violentes. D'abord, une déflagration sur le plan personnel avec la perte de l'homme avec qui j'ai partagé 30 années de ma vie. Et puis ensuite, la déflagration sur le plan collectif des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère en janvier dernier. Et maintenant, celle, il y a un mois, des attaques terroristes et des tueries aveugles dans Paris. Alors, je vous avouerai que ces apocalypses à répétition n'ont pas manqué de bouleverser ma vision de la vie, qui m'apparaît désormais dans toute sa précarité et sa fragilité, et qui semble rendre futile et vaine toute volonté d'accomplir quoi que ce soit. Je reste cependant consciente que ma mission au Collège de France est une mission avant tout de service public, et qu'il me faut donc continuer à garder avec vous les yeux ouverts sur le monde, quoi qu'il en coûte, et à maintenir une parole vivante. Alors, juste un mot d'explication pour ceux d'entre vous qui se sont peut-être étonnés que le cours ne reprenne qu'aujourd'hui. C'était dûment annoncé dans le programme. J'étais jeudi dernier à Chicago pour un colloque conjoint entre l'Université de Chicago et le Collège de France. Un colloque qui s'est déroulé sur fond, là aussi, d'attentats aux États-Unis, donc avec la tuerie de San Bernardino en Californie. Un colloque consacré aux représentations que se font l'un de l'autre l'Occident et l'Orient. Et ce fut l'occasion fort instructive de constater une fois de plus que même si nous vivons dans un monde où tout va et tout change très vite, les idées préconçues, les préjugés, l'ignorance et la peur de l'autre datent d'il y a très longtemps, on peut même dire qu'ils ont toujours été là, et ont, eux, la vie très dure. Alors, ce qui s'est passé tout récemment et se passe encore pour deux jours à Paris nous a montré la mondialisation sous toutes ses formes. Nous vivons désormais une mondialisation de la violence extrême et extrémiste, mais nous vivons aussi à l'ère de la conscience mondialisée que c'est la planète dans son ensemble qui est en danger et que les solutions ne peuvent se trouver qu'à l'échelle planétaire. Et dans ce contexte, il n'échappe à personne que dans le monde actuel, la Chine occupe une place massive et qu'elle pèse de tout son poids, qu'on tend à mesurer en termes avant tout économiques et géopolitiques. Or, il me semble nécessaire de nous efforcer, d'une part, d'aller au-delà des chiffres et des purs rapports de force, et d'ouvrir la réflexion sur la profondeur de la longue durée. Et il me semble également important, d'autre part, de ne pas suivre la tendance médiatique à parler de la Chine, prise comme une entité isolée et autosuffisante, mais de la replacer dans un espace de circulation beaucoup plus large, où cette Chine entre nécessairement en interaction avec d'autres qu'elle, un espace où elle bute sur ses limites, où elle se trouve confrontée à des regards critiques, où elle est renvoyée à des interrogations sur elle-même. Alors cette Chine, si longtemps et encore maintenant représentée comme autre dans l'imaginaire européen et qu'on a si souvent décrite comme fermée à l'autre, retranchée derrière sa grande muraille, cette Chine n'a-t-elle pas été plus diverse, plus cosmopolite qu'on ne l'a dit ? N'a-t-elle pas eu conscience de faire partie du monde plutôt que d'être un monde à elle toute seule, et ce, bien avant l'époque, somme toute récente, de l'intrusion européenne. Et ce que je vous propose à partir de cette année, c'est de tester tous ces points d'interrogation et chercher des éléments de réponse à ces questions en considérant donc la Chine en particulier dans ses rapports d'abord historiques avec ses grands voisins que sont le Japon et l'Inde. Je vous avouerai que j'ai eu tout d'un coup le sentiment que j'en avais assez de parler que de la Chine. Que ça reste entre nous, ça. Alors, en réalité, tout au long de ces dernières années, nous avons été amenés à sonder et à interroger sous divers angles la prétention chinoise à l'universalité. Et c'est donc maintenant précisément cette question de l'universalité chinoise et de ses limites qui va nous occuper maintenant. Alors, dans les très grandes lignes, il s'agira pour nous d'examiner comment cette universalité à la chinoise s'est constituée, mais aussi comment elle s'est trouvée décentrée, notamment dans ses contacts avec l'Inde, et comment elle s'est trouvée même contestée, en particulier dans son interaction avec le Japon. Alors, comme je viens de le dire, mon objectif est d'arriver à sortir de la fixation actuelle sur la Chine prise dans l'absolu, en ouvrant la perspective sur ses relations avec deux de ses principaux voisins, donc l'un à l'est, l'autre à l'ouest, qui ont chacun, à sa manière, joué un rôle déterminant dans son histoire culturelle. Mais avant de nous lancer dans le vif de ce sujet touffu et de commencer à en explorer les infinies complexités, je préfère vous dire que ça va nous occuper pendant un certain temps. Avant tout cela, il me paraît important, ne serait-ce que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi notre itinéraire jusqu'à maintenant, de rappeler ce qui nous a amené à soulever une telle question. C'est-à-dire donc cette question de la prétention chinoise à l'universalité. Alors, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, nous avons commencé à interroger cette prétention en nous demandant en quoi se justifie la qualification d'humanisme, désormais appliquée de manière conventionnelle et je pourrais même dire routinière, à ce qu'on a appelé dans les milieux européens donc le confucianisme, c'est-à-dire plus spécifiquement Confucius et son enseignement. Effectivement, dans ce contexte européen dans lequel nous vivons, donc, nous avons tendance à considérer que justement notre humanisme européen est par nature universaliste et que notre, on pourrait dire, notre conception des droits de l'homme est elle aussi également universaliste. Or, la Chine semble proposer quelque chose de différent, hein, du point de vue donc de l'universalisme. Alors, si humanisme implique universalité, on peut aussi se demander en quoi cet humanisme confucéen peut prétendre à l'universalité au sens où on l'entend communément ici, des religions de type universaliste, comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme. Alors, derrière cette question se profilait inévitablement celle de savoir si le confucianisme est à ranger dans la catégorie philosophie ou dans la catégorie religion, ce qui est une sempiternelle et lancinante question qui nous poursuit encore aujourd'hui. Alors, au cours de ces dernières années, nous avons retracé les tribulations, non pas d'un Chinois en Chine, mais de Confucius et de son enseignement, déplacés en quelque sorte comme des pions sur l'échiquier de la géographie intellectuelle européenne moderne. On est ainsi passé de la figure de Confucius pris comme philosophe dans l'idéal rationaliste des Lumières européennes du XVIIIe siècle. Je vous rappelle que la traduction faite par les jésuites d'un corpus important du canon confucéen donc, a été intitulée donc, en 1687, fin du XVIIe siècle, Confucius Sinarum Philosophus, donc Confucius, philosophe des Chinois. Alors, donc, on est passé de cette figure du Confucius Philosophus au confucianisme, considéré non plus comme philosophie, mais comme religion dans l'Europe du XIXe siècle. Cette Europe du XIXe siècle qui donc a défini son identité comme étant d'origine grecque et par conséquent comme ayant une sorte de monopole justement de cette catégorie de philosophie dont la Chine s'est trouvée exclue et donc reléguée dans la catégorie de religion. Alors, ce n'est donc pas seulement la figure de Confucius qui s'est retrouvée au cœur de ce que nous avons appelé la première mondialisation au XVIIe et XVIIIe siècle. La grande question de savoir si le confucianisme est à placer dans la catégorie de religion est une question qui a été soulevée donc par la science des religions, qui est une discipline universitaire nouvelle, apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et donc, cette question du confucianisme comme religion a pris également une dimension mondialisée au tournant des XIXe-XXe siècles. Alors, je vous rappellerai qu'au début du XXe siècle, la rivalité franco-anglaise dans le domaine des études chinoises, cette discipline spécifique qu'on a appelée la sinologie, donc cette rivalité franco-anglaise s'est doublée d'une rivalité franco-allemande dans le champ alors nouveau de la sociologie. En effet, face à l'école française de Durkheim et de Mauss, représentée en sinologie par Marcel Granet, se sont développées donc les thèses du sociologue allemand Max Weber. Alors, dans son ouvrage Confucianisme et Taoïsme, l'un des volets de la grande trilogie que Weber a consacrée entre 1915 et 1920 à l'éthique économique des religions mondiales, au chapitre 6 de cet ouvrage, intitulé « L'orientation confucéenne de la vie », Weber écrivait de manière tout à fait juste, donc Weber, encore une fois, n'était pas sinologue, mais dans son confucianisme et taoïsme, il y a beaucoup de choses tout à fait justes sur la civilisation et la société chinoise. Weber écrivait ceci, je cite, « La langue ne connaît pas de mots particuliers pour religion. On trouvait, premièrement, la doctrine, ce que Weber appelle en allemand « Lehre », donc la doctrine, il est en train de parler de l'enseignement de l'école des lettrés. Deuxièmement, des rites, sans que l'on distinguât s'ils étaient de nature religieuse ou conventionnelle. Le nom chinois officiel pour désigner le confucianisme était « doctrine des lettrés ». Et il donne donc en transcription de l'époque ce terme chinois de « ru jia », sur lequel je reviendrai. Alors, je continue la citation. « Le rapport aux religieux, quelle que soit la nature de celui-ci, magique ou cultuel, conservait dans ce contexte un sens orienté vers l'ici-bas. » Fin de citation. Donc, ici, Weber revient donc à son thème favori, qui est donc de montrer que le confucianisme ne connaît pas la transcendance, il est entièrement dans l'immanence, et c'est donc pour mieux l'opposer à l'éthique du protestantisme qui, selon Weber, explique pour une large part donc l'émergence du capitalisme moderne en Europe. Donc, dans l'esprit de Weber, le confucianisme joue un rôle, si vous voulez, comment dire, de contraste, enfin pour montrer que justement le confucianisme explique qu'il n'y ait pas eu justement cette émergence d'un capitalisme en Chine, ce qui évidemment à l'heure actuelle semble quelque peu contestable. Alors le compatriote et contemporain de Weber, le sinologue allemand Wilhelm Grube, consacre lui aussi une étude à la religion et au culte des Chinois, publiée à Leipzig en 1910 et intitulée en allemand donc Religion und Kultus der Chinesen, dans laquelle il fait une constatation similaire à celle de Weber, mais en tant que sinologue. Grube était véritablement un sinologue. Alors je cite. Le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc en allemand religion, et enseignement, lehre, et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts. Nous devons prendre conscience une fois pour toutes que du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien qu'un enseignement parmi d'autres. Le terme chinois pour confucianisme, et là Grube cite également donc le terme chinois Zhujiao, ne signifie rien d'autre que l'enseignement des lettrés ou des érudits, c'est-à-dire des adeptes de Confucius, ou en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius. Cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Fin de citation. Donc, aussi bien Grube que Weber observent, nous sommes dans les années 1910-1920, donc observent qu'il n'y a pas en chinois de termes spécifiques pour religion. Pour eux, il existe bien deux termes connexes, à savoir d'un côté l'ère, enseignement ou doctrine, et riten, donc les rites. Donc le premier terme, l'ère, se référant à une école des lettrés, tandis que le second, riten, est employé par les Chinois sans distinguer, je cite Weber, s'ils sont de nature religieuse ou conventionnelle. En outre, le terme officiel chinois Zhujiao, donc cité donc par ces deux savants allemands et traduit par le néologisme européen confucianisme, ne désigne pas une religion, mais cette doctrine ou enseignement des lettrés. En d'autres termes, Weber et Grube ont bien vu que la catégorie de religion, au sens où elle est entendue dans le contexte européen et avant tout chrétien, religion entendue comme système structuré de croyances et de pratiques, séparée de la société et organisant les fidèles en une église. Donc cette conception-là de la religion n'est pas adaptée pour rendre compte de cette notion chinoise de jiao, le composé de cette expression zhujiao. Or, c'est autour de ce terme de jiao que s'est formé tout un conglomérat de malentendus dont nous avons encore du mal à nous extirper aujourd'hui. La complication vient du fait que c'est ce terme de jiao qui a été utilisé pour former un néologisme en japonais, le japonais donc shukyo, prononcé en chinois donc zongjiao. Donc c'est ce néologisme adopté du japonais aux alentours de 1900, c'est-à-dire au tournant des 19e, 20e siècle, pour traduire le concept occidental de religion. Donc ce mot zongjiao ou shukyo en japonais, qui aujourd'hui traduit conventionnellement le mot religion, est composé donc de zong, qui désigne la lignée ancestrale principale, et de jiao, qui veut dire donc enseignement ou doctrine. Alors c'est ce composé qui a été adopté au Japon dans les toutes premières années de l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, cette ère Meiji qui a marqué au Japon cet effort extraordinaire de modernisation, c'est-à-dire d'occidentalisation. Alors, ce terme donc a été adopté au Japon et a ensuite été importé à la toute fin du XIXe siècle en Chine, où il s'est retrouvé dans les toutes premières tentatives de traduction en chinois de textes concernant la religion et l'Église chrétienne. Alors, ce terme de zhongjiao apparaît donc comme l'un de ces nombreux néologismes qui ont été forgés pour traduire des concepts européens dans ce Japon de l'ère Meiji, lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental, puis emprunté tel quel en Chine, ce qui a été pour la Chine une extraordinaire commodité du fait de l'identité de l'écriture. L'écriture japonaise étant en partie composée donc de ces fameux kanji, c'est-à-dire de ces caractères chinois qui ont été empruntés à la Chine par le Japon dans le courant du premier millénaire de l'ère chrétienne. Donc vous avez cette proximité de l'écriture qui a grandement facilité donc ce transfert de savoir du Japon vers la Chine. Donc on pourrait dire que la Chine a ainsi reçu du Japon un nouvel équipement terminologique, en quelque sorte clé en main. Et ça, c'est évidemment un apport que, en Chine actuellement, on a un peu tendance à passer sous silence, hein, vu en tenant compte évidemment de l'histoire assez tourmentée entre le Japon et la Chine au cours du XXe siècle. Alors, c'est donc avec l'introduction par la médiation japonaise du concept occidental de religion, traduit par zhongjiao, que la question du caractère religieux ou non du confucianisme a commencé à obséder les esprits en leur imposant de prendre parti et de se prononcer pour ou contre. Donc, dans la modernité du premier XXe siècle chinois, vous avez donc les partisans, justement, de cette thèse que le confucianisme est en effet une religion, et les opposants donc à cette thèse. Alors, jusqu'à la fin du XIXe siècle, le confucianisme apparaissait pourtant non seulement comme un tiao, c'est-à-dire comme un enseignement, mais comme le tiao archétypal par lequel il faut entendre avant tout le li tiao, c'est-à-dire littéralement l'enseignement ou la science des rites. Et en cela, donc, nos deux savants allemands que j'ai cités tout à l'heure, donc Weber et Grube, avaient bien raison justement d'identifier donc d'une part l'enseignement et d'autre part donc les rites. Donc pour les Chinois, en fait, vous aviez tout simplement un enseignement des rites. Alors, nous avons longuement insisté l'an dernier sur le caractère essentiellement continuiste de cet enseignement rituel ou ritualiste qui imprègne intégralement la conception confucéenne du monde cosmique comme du monde, enfin comme du corps sociopolitique. Et j'aimerais donc revenir justement sur ce caractère continuiste parce que c'est quelque chose d'important pour comprendre la suite de notre propos. Le continuisme du ritualisme confucéen ne constitue pas un corps de doctrine, de notions ou de valeurs abstraites. Parce que quand on parle de doctrine confucéenne, on a tendance à traduire dans des termes qui nous sont plus familiers, c'est-à-dire donc une sorte de corpus de notions, de valeurs ou de croyances abstraites. Ce continuisme se traduit dans des pratiques qui peuvent aller des rites, des grands rites cérémoniels de la cour impériale, jusqu'à des pratiques domestiques, voire individuelles, que ce soit des pratiques d'ordre éthique, esthétique, diététique, thérapeutique ou tout autre tic. Le continuum inhérent à ce ritualisme englobe ainsi tout à la fois les dimensions macrocosmiques et microcosmiques, les dimensions visibles et invisibles, ou en termes cosmologiques chinois, la dimension yang, c'est-à-dire donc la dimension solaire, lumineuse, visible, et la dimension yin, c'est-à-dire la dimension lunaire, cachée, sombre, invisible. Donc, on mesure à quel point l'introduction de la notion de religion, d'origine européenne et donc avant tout chrétienne, a représenté une rupture dans ce continuum. Par contraste, la conception proprement religieuse se caractérise avant tout comme dualiste, en établissant une claire démarcation entre le transcendant et l'immanent, entre le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre le clérical et le laïque, entre le religieux et le séculier, entre ce qui revient à Dieu et ce qui revient à César. En somme, ce dualisme semble s'opposer radicalement donc à ce continuisme ritualiste qui fonde la dimension indissolublement politico-religieuse du pouvoir en Chine. Alors, on trouve l'illustration et l'explicitation de cette vision continuiste dans les grands traités ritualistes compilés à l'époque Han, c'est-à-dire au moment de la fondation véritablement de l'ère impériale entre le IIe siècle avant et le IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, à ce moment où se mettent en place les structures politiques d'un nouvel ordre impérial centralisé. Et je rappellerai que cette dynastie Han a joué un rôle déterminant donc, dans la constitution d'une identité chinoise qui est restée donc Han depuis cette époque. Alors, sous les Han, il existe plusieurs compendia portant sur les rites qui sont étonnamment volumineux, surtout au regard des ouvrages de l'époque. Je rappellerai que nous avons à l'époque une contrainte matérielle dans le fait que les ouvrages sont tous manuscrits sur des supports de lattes de bois ou de bambou et par conséquent extrêmement long à écrire et lourd à transporter. Donc nous avons ces compendia ritualistes qui sont d'une longueur assez remarquable pour cette époque. Donc à bien des égards, l'accent mis sur les rites et sur la culture ritualiste semble constituer un trait spécifique de cette période du tout début de l'ère impériale, qui correspond donc, comme on l'a vu, au tournant de l'ère chrétienne, cette époque où se fait jour le besoin d'intégrer dans une même vision, unifiée, tous les éléments de la vie sociale et politique. Alors, ces compendia ritualistes traitent en effet tout aussi bien des rites officiels, tels que les grands sacrifices et rituels de cour, que, je l'ai dit tout à l'heure, des rites domestiques, notamment ceux du mariage et du deuil, et même des rites de la vie individuelle et personnelle. Vous avez des indications rituelles sur la façon correcte de se comporter, de se vêtir, ou même de se nourrir. Alors, autant dire que li, que vous avez ici, donc, est un terme générique qui sert à désigner un faisceau de réalités et de pratiques très diverses et situées à des niveaux très différents. Et pourtant, donc, qui font partie d'un même ensemble. Alors, l'un de ces compendia est le traité des rites, en chinois, donc le Li Ji, qui, soit dit en passant, fait l'objet de notre séminaire de lecture du jeudi après-midi, et encore cette année. Nous nous apprêtons à lire le chapitre justement intitulé Zhu Xing, c'est-à-dire donc le comportement du Zhu, hein, ou donc du lettré, hein, ce fameux Zhu qui intervient donc dans le Zhu Jiao dont parlaient nos savants allemands, hein, donc ces lettrés confucéens. Alors, le chapitre 7, ce chapitre Li Yun, sur l'évolution des rites, dans le traité des rites, place dans la bouche de Confucius un propos qui fait des rites un moyen d'établir la continuité entre le céleste et l'humain. C'est un passage que nous avons étudié l'an dernier, donc je me contente de le lire en traduction. Vous avez le texte original donc, en projection. Yan Yan, donc, qui est un disciple de Confucius, interroge de nouveau, hein, pose cette autre question. Les rites sont-ils donc d'une telle, littéralement d'une telle urgence, c'est-à-dire d'une importance si vitale? Et Confucius répond, les rites, c'est ce qui a permis aux anciens rois de seconder la voie du ciel et d'ordonner les sentiments des humains. Donc je vous ai souligné en rouge ce parallélisme entre le Tian Zhi Dao, c'est-à-dire donc la voie du ciel, et Ren Zhi Qing, c'est-à-dire donc les sentiments ou les émotions donc des humains. Celui qui perd cela de vue est un homme mort, alors que celui qui le préserve vivra. Vous avez ensuite une citation du livre des poèmes qui est considéré dans la tradition confucéenne comme un livre canonique. Donc ce livre des poèmes dit « Le rat, hein, c'est le rat, hein, vous prenez un rat, hein, il est bien doté de membres. Hein, et si vous prenez un homme, comment est-ce qu'il peut être dépourvu de rites? Autrement dit, un homme sans rites, c'est comme un rat qui n'aurait pas de membres. Et la citation des poèmes continue en disant « Un homme dépourvu de rites ne ferait-il pas mieux de mourir tout de suite ?» Autrement dit, puisqu'il n'est pas humain, il serait mieux mort. Et ensuite, la citation donc, du traité des rites continue. « C'est ainsi que les rites ne trouvent leurs racines que dans le ciel, leur modèle que dans la terre, leur ordonnancement que dans les mânes et les esprits. Ils s'étendent jusqu'aux rites funéraires, jusqu'aux sacrifices, jusqu'à la pratique du tir à l'arc et de la conduite du char, jusqu'à la cérémonie d'imposition de la coiffe virile et la cérémonie du mariage, et jusqu'aux audiences et aux visites de cour. » Donc là, vous avez en fait toute l'étendue justement de la pratique des rites. Dès lors que les sages rois ont fait connaître ces rites, et là vous avez une expression qui sera importante pour nous, hein, le tout sous le ciel, c'est-à-dire le tianxia, hein, tout sous le ciel, c'est-à-dire le monde dans son entier, chaque pays, chaque famille ont pu être gouvernés dans la droiture. Fin de citation. Alors, on voit ici l'appariement et le parallèle établi donc entre le ciel Tian et l'homme Ren. Ce parallélisme si caractéristique de la cosmologie dite anthropocosmique, hein, c'est-à-dire donc entre l'homme et le cosmos, de la fin des royaumes combattants et de l'époque Han, c'est-à-dire entre, en gros, la fin du IVe siècle et la fin du Ier siècle de l'ère chrétienne. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre Li Yun, c'est-à-dire sur l'évolution des rites, se trouve développé le remarquable continuum qui relie l'univers et le monde humain, les éléments naturels et surnaturels. Là aussi, donc, je me contente de lire la traduction. Lorsque les sages rois ont établi les règles, ils n'ont pu que prendre pour fondement le ciel-terre, pour principe le yin et le yang, pour gouvernail les quatre saisons, pour repère le soleil et les étoiles, pour mesure la lune, pour acolyte les manes et les esprits, pour matière les cinq éléments, pour outil les rites et le sens du juste, pour champ à cultiver les émotions des humains et pour animaux domestiques les quatre créatures magiques que sont donc la licorne, le phénix, la tortue et le dragon. Donc, vous voyez donc à travers cette citation qu'il n'y a absolument pas de démarcation entre le cosmos, c'est-à-dire donc le ciel-terre, le yin-yang, les saisons, le soleil, les étoiles, la lune, entre donc le cosmos, le monde surnaturel des esprits et des divinités, et le monde humain, qui est représenté ici par les rites, le sens du juste et les émotions. Cette parfaite intégration de l'ordre humain dans l'ordre cosmique, on la trouve exprimée de la manière la plus claire dans les écrits attribués à un maître à penser de l'Antiquité préimpériale, appelé Maître Xun, en chinois Xunzi, qui a donné son nom donc, à un ouvrage attribué donc, à ce penseur de la fin de l'Antiquité préimpériale, qui aurait vécu entre les 4e et 3e siècles avant l'ère chrétienne, et qui se présente comme l'un des héritiers majeurs de l'enseignement de Confucius, et qu'on associe le plus souvent à un autre penseur plus connu, Mencius, en chinois Mengzi. Ce qui me donne l'occasion d'annoncer donc la sortie prochaine de la belle traduction d'Ivan Kamenarovitch de cet ouvrage, le Xunzi, dans la collection bleue des belles lettres que j'espère vous connaissez d'ores et déjà, puisque je ne rate jamais une occasion donc, de faire de la publicité donc, pour cette collection que je co-dirige avec deux autres collègues aux éditions des Belles Lettres. Et cette collection donc, qui prend modèle sur la collection des Budées, grec et latin. Donc, dans le même esprit, vous avez donc les textes en chinois classique sur une page et sur la page d'en face, donc la traduction annotée en français. Alors, dans cet ouvrage, le Xunzi, au chapitre 17, consacré au ciel, le Tianlun. On trouve cette image très frappante de la triade ciel, terre, homme, Tiandi Ren. Le ciel, la terre et l'homme représentent chacun donc une sorte de puissance cosmique qui a son rôle propre. Le ciel recouvre, la terre porte et l'homme met les choses en ordre. Donc, vous avez donc cette citation de ce chapitre qui dit ceci. Le ciel a ses saisons, la terre ses richesses ou ses ressources, et l'homme son ordre, sa façon d'ordonner les choses. C'est ainsi qu'ils peuvent former une triade. Les étoiles tournent en bon ordre, le soleil et la lune brillent tour à tour, les quatre saisons se succèdent, yin et yang opèrent leur grande transformation, vent et pluie se propagent partout, les 10 000 êtres trouvent chacun l'harmonie requise pour leur engendrement et la nourriture nécessaire à leur accomplissement. Fin de citation. Donc, cette triade anthropocosmique, ciel, terre, homme, a connu une fortune telle qu'elle a donné lieu à une interprétation, on pourrait dire presque une sorte d'étymologie, mais purement fantaisiste, de ce caractère que vous avez en bas de la diapositive, le caractère Wang, qui signifie donc le roi, et dont une source d'époque Han explique la graphie de la façon suivante, c'est-à-dire que vous avez dans ce caractère trois traits horizontaux qui représentent le ciel en haut, la terre en bas et l'homme au milieu. Donc ces trois traits horizontaux qui sont traversés en leur milieu par un trait vertical qui représenterait, lui, le roi ou le souverain, une sorte d'axis mundi qui relie donc les trois ordres cosmiques que sont le ciel, la terre et l'homme. Et donc, au cœur de cette triade, l'homme tient toute sa place entre le ciel et la terre, dont il parachève l'œuvre cosmique. Et dans un autre chapitre de ce même ouvrage, attribué à Maître Xun, donc le Xunzi, au chapitre 19, intitulé le Li Lun, c'est-à-dire sur les rites, consacrés aux rites, vous avez cette autre citation. Les rites ont trois racines. La première racine, c'est le ciel-terre, qui est la racine de la vie. La deuxième, ce sont les ancêtres, qui sont la racine de la famille. La troisième racine, ce sont les princes et les maîtres, qui sont la racine de l'ordre humain. En effet, sans le ciel-terre, quelle vie y aurait-il ? Sans les ancêtres, quelle famille y aurait-il ? Et sans prince ni maître, quel ordre humain y aurait-il ? S'il manque une seule de ces trois racines, il n'y a pas de sécurité possible pour l'homme, donc de vie assurée pour l'homme. Voilà pourquoi c'est par les rites qu'on sert en haut le ciel et en bas la terre, qu'on honore les ancêtres et qu'on vénère prince et maître. Telles sont les trois racines des rites. Fin de citation. Alors, je rappellerai que certaines sections de cet ouvrage, le Xunzi, et en particulier de ce chapitre consacré aux rites, se retrouvent quasiment mot pour mot dans les compendia ritualistes dont je parlais tout à l'heure, et notamment donc le traité des rites. Donc, ces trois racines dont parle le Xunzi, c'est-à-dire le ciel-terre, les ancêtres et les princes et maîtres, constituent ce qu'on a appelé communément les cinq grands, les Wuda. Et j'ai rappelé l'année dernière que ces cinq grands font l'objet d'un culte populaire qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, dans certains temples, vous avez donc ces autels consacrés donc à ces cinq grands. Donc on peut dire que depuis les sources anciennes et jusque dans les pratiques cultuelles contemporaines, toute la vision chinoise du monde est habitée par la continuité entre le ciel-terre, c'est-à-dire l'ordre cosmique, et l'ordre humain, qui se traduit en termes religieux par un culte rendu aux ancêtres et en termes politiques d'autorité en termes d'autorité du prince et en termes sociaux donc sous forme de transmission de maître à disciple. Donc vous avez ainsi une sorte de cadre qui englobe au fond toute la vie et toute l'activité humaine. Alors il s'agira évidemment de voir dans quelle mesure justement cette vision continuiste a été donc rompue par l'irruption de la modernité occidentale. Je parlais tout à l'heure de cette rupture introduite notamment par la religion dans sa conception européenne et en particulier chrétienne, mais on pourrait dire plus largement que l'irruption de la modernité occidentale a été véritablement une rupture totale donc, de ce continuisme. Donc je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je vous remercie encore d'être au rendez-vous que j'espère pouvoir donc renouveler de manière hebdomadaire à partir de jeudi prochain. Merci.